Ignace de Loyola, 1491-1556, et la sainteté au siècle d'or en Espagne. Voici une conférence de Bartolomé Benassar, professeur émérite des universités, conférence enregistrée le 19 avril 2006 lors d'un colloque consacré au 5e centenaire de la naissance de Saint-François-Xavier 1506-1552. Ignace de Loyola et la sainteté au siècle d'or en Espagne, le professeur Bartolomé Benassar.
Je n'ai nullement l'intention d'esquisser devant vous une sociologie de la sainteté. Mais je voudrais rappeler cependant que l'époque d'Ignace de Loyola et de François Xavier a été celle d'une explosion de la sainteté, notamment dans l'Europe méridionale, en Italie et en Espagne. On sait que après les canonisations du premier quart du XVIe siècle, qui ont été en quelque sorte les dernières de ce que j'appellerais l'ancien système, celle des années 1514-1523, qui ont correspondu à la canonisation de Saint Bruno, de Saint François de Paul, de Saint Anthony de Florence, entre autres, 65 années se sont écoulées sans aucune canonisation. Comme si les railleries des premiers réformés à propos des reliques des saints, et notamment dans le cas d'un saint un peu particulier qui avait lui aussi été canonisé dans les années 1514-1523, Saint Ben, comme si ces railleries avaient conduit les papes et les pères conciliaires à suspendre les canonisations. Le mécanisme des procès de canonisation fut alors révisé de manière complète, avec grand soin, avec une grande rigueur, de sorte qu'il fallut attendre 65 ans, je viens de le dire, l'année 1588, qui fut aussi l'année de la création de la congrégation des rites et des cérémonies sacrées, pour que survienne une nouvelle canonisation et que commence, si je puis dire, une nouvelle série. La congrégation des rites et des cérémonies sacrées, d'ailleurs, en 1610, confia au pape seul le droit et la responsabilité, si l'on peut dire, de faire des saints, enfin de proclamer des saints. Et Urbain VIII rendit la procédure encore plus sévère, encore plus stricte lors des mesures prises en 1625 puis en 1634. C'est notamment en 1634 que fut instaurée la règle dite des 50 ans, c'est-à-dire qu'un procès en canonisation ne pouvait commencer que 50 ans après la mort, je n'ose dire du candidat, mais disons de l'intéressé. La canonisation d'Ignace de Loyola a eu lieu en 1622, donc avant que soit instaurée la règle de 1634, la règle des 50 ans, mais en quelque sorte, cette règle avait été anticipée, puisque la canonisation d'Ignace survenait 66 ans après sa mort, qui, comme vous le savez tous, dirait Béatrice Leroy, eut lieu en 1556. Mais déjà, la réputation de sainteté d'Ignace était très largement répandue. Et je vous rappellerai que dès 1617, 5 ans avant cette canonisation, dès 1617, Rubens, à Anvers, avait attribuer dans ses peintures des miracles tout à la fois à Ignace de Loyola et à François Xavier, dont les canonisations ont été simultanées, comme vous ne l'ignorez pas, n'est-ce pas, la canonisation du Basque et canonisation du Navarrais en même temps, associées à une autre grande sainte de l'Église romaine, c'est-à-dire Sainte Thérèse d'Avila, puisque ces trois canonisations ont eu lieu en même temps, et qu'elles ont été, je me permettrai de le dire, qu'elles ont été marquées, entre autres, ce qui va peut-être vous surprendre, par un grand nombre de courses de taureaux. Trois Espagnols, par conséquent, trois Espagnols canonisés en même temps en 1622. Cela n'a rien de surprenant. Si l'on songe que sur les 55 saints de l'Église romaine qui ont été élevés sur les autels entre 1588 et 1617, il y a eu 26 Italiens, certes, mais aussi 17 Espagnols. De sorte que toutes les autres nationalités réunies, Français, Portugais, Polonais, plus un Allemand, un Tchèque et un Péruvien, ne totalisent que 12 canonisations. Il s'agit donc, je ne dirais pas certes d'un monopole, mais d'une nomination tout à fait remarquable de saints italiens et ibériques. Et par conséquent, Ignace de Loyola, comme d'ailleurs François Xavier, ne sont que des représentants particulièrement remarquables, certes, d'une génération très nombreuse de saints ibériques. Alors, je donne quelques exemples. Je dis bien une génération, parce que leur apparition au monde se produit dans un délai d'un quart de siècle. Ignace est né en 1491. Saint Thomas de Villeneuve, ou Thomas de Villanueva, comme vous voudrez, archevêque de Valence et vice-roi, est né pour sa part en 1488. Saint Jean de Dieu, qui est né au Portugal, mais qui a passé presque toute sa vie en Espagne, et notamment à Grenade, est né en 1495. Un autre personnage tout à fait extraordinaire, de ces personnages hors du commun, comme cette époque en a produit beaucoup, Saint-Pierre d'Alcantara, est né en 1499. François Xavier, donc, en 1506, 15 ans après Ignace. François Borgia, autre futur vice-roi et aussi autre futur général des Jésuites en 1510, Thérèse d'Avila en 1515. Et on pourrait en ajouter quelques autres. Mais enfin, je me contente de cette brochette, si je puis dire, de saints, qui sont, comme vous le voyez, des personnages tout à fait remarquables, tout à fait extraordinaires. Alors j'ai eu risqué quelquefois au cours de ma vie de professeur, l'expression de mode de la sainteté, dans la mesure où la sainteté a bien été, pendant au moins deux siècles, un modèle social. Un modèle social que nombre d'hommes et de femmes ont considéré comme un idéal à peu près inaccessible, certes, mais qu'il fallait tenter d'approcher. Venons-en tout de même maintenant à ce cas, lui aussi hors de série, hors du commun, que nous permet d'approcher la personnalité d'Ignace de Loyola. Un des nombreux romans policiers de James Hedley Chase a été traduit en français sous le titre de « Un hippie sur la route ». C'est une définition, je ne veux pas pousser plus loin la comparaison, mais c'est une définition qui conviendrait parfaitement à Ignace de Loyola dans les années 1522-1533, par lesquelles je vais commencer, de manière peut-être un peu bizarre, mais cette période de sa vie tellement fondamentale que c'est par elle que je commencerai. Hippie de Dieu, clochard spirituel, routard de la foi, mendiant d'éternité, toutes ces définitions pourrait convenir au personnage d'Ignace de Loyola, sinon à la réalité, du moins à l'apparence de la réalité. On a même pu parler, à propos de son séjour si important, sur lequel bien sûr je vais revenir, dans la grotte de Manresa en Catalogne, on a pu parler de la période hirsute d'Ignace de Loyola. Et tout à l'heure, Mgr Moller rappelait qu'à Paris, Il avait, si j'ose dire, un look assez particulier. Et l'un des spécialistes d'Ignace de Loyola, Alain Guillermou, dans son livre, dans sa collection Les Maîtres Spirituels, rappelle, je cite, « Il laisse pousser ses cheveux, sa barbe, ses ongles. » C'est un personnage tel que nous pouvons en rencontrer dans les rues de nos villes d'aujourd'hui. De fait, ses cheveux tombent en cascade sur ses épaules, cheveux qui ne sont pas toujours l'objet de... Bien. Et on pourrait presque dire, sans exagérer, que Ignace s'habille de haillons. Or, il ne s'agit pas d'une parenthèse dans sa vie. Il ne s'agit pas davantage d'une crise d'adolescence, mais d'une période longue qui s'inscrit précisément au milieu de la vie d'Ignace de Loyola, puisque c'est une période qui commence en 1522, il a donc 31 ans, qui se termine, si l'on veut, en 1533, donc qui dure 11 ans, qui se termine alors qu'il a déjà passé la quarantaine. C'est une période donc longue. Pendant cette longue période, ce SDF effectue d'incroyables randonnées. C'est peut-être à cheval qu'il a commencé ses voyages, qu'il a escaladé le sanctuaire, les pentes du sanctuaire basque d'Arantzazu. C'est peut-être encore à dos de mule qu'il s'est rendu d'Arantzazu à travers le nord de l'Espagne, d'Arantzazu jusqu'au sanctuaire, cette fois catalan, de Montserrat. Certes. Mais après son long séjour capital, essentiel, dans la grotte catalane de Manres, séjour qui dure à peu près un an, c'est à pied, dénué de tout, qu'il traverse deux fois l'Italie. Une première fois en partant de Gaète, donc tout près de Naples, pour aller jusqu'à Venise, où il avait l'intention, d'ailleurs accomplie, de s'embarquer pour Jérusalem, pour aller en Terre Sainte. Puis, au retour de ce pèlerinage en Terre Sainte, de Venise à Gênes, donc toute la traversée du nord de l'Italie, avant de regagner l'Espagne. Il a effectué, en un peu plus d'un mois, à pied toujours, le parcours de Salamanque à Paris. Ça n'est pas une simple promenade. Au moins trois fois, je crois que c'est au moins trois fois, il s'est rendu, c'est plus court, mais enfin tout de même, de Paris en Flandre, jusqu'à Anvers, notamment, afin d'obtenir des aumônes des riches commerçants espagnols qui étaient installés à cette époque à Bruges et à Anvers, de manière à poursuivre ses études, puisqu'il n'avait strictement rien. On le voit aussi, ce n'est plus qu'un simple passeo, on le voit aussi aller de Paris à Chartres, à travers la Beauce, en chantant. Alors, il va de soi que ce chrétien atypique, très mal habillé, à peine présentable, qui dort dans des hospices destinés aux pauvres. À Paris, il dort fréquemment dans l'hospice de Saint-Jacques aux Espagnols, qui prêche sur les routes et dont l'influence sur les gens qu'il rencontre est déjà évidente. Il va de soi que ce chrétien insolite inquiète. Certes, il se présente comme étudiant, et il est étudiant, on l'a rappelé tout à l'heure, il entre au collège de Montaigu, puis au collège de Sainte-Barbe, de Santa Barbara. Mais il n'est encore nullement installé dans l'institution ecclésiastique. De sorte que, lors d'un séjour d'études, dans l'une des premières universités espagnoles où il travail, et non des moindres, celle d'Alcalá de Henares, la future patrie de Cervantes, il est incarcéré sur l'ordre du vicaire général du diocèse de Tolède, Alcalá dépendant du diocèse de Tolède. Ne s'agirait-il pas d'un alumbrado, c'est-à-dire d'un illuminé? Vous savez en effet que le Saint-Office moderne, l'Inquisition moderne en Espagne, après avoir poursuivi sévèrement les conversos, les juifs convertis, considérés comme crypto-judaïsants jusque dans les années 1510-1515, avait à ce moment-là une deuxième cible qui était constituée par les alumbrados. Et, par exemple, il y avait eu dans la ville d'Extremadura de Llerena, qui était le centre du tribunal extremeño de l'Inquisition, d'importants procès d'alumbrados. Plus tard à Salamanque, donc nouvelle très grande université espagnole, il est arrêté sur l'ordre du Saint-Office cette fois. On l'accuse d'érasmiser. Et à chaque fois, il doit démontrer sa parfaite orthodoxie. Son cas, d'ailleurs, n'a rien d'unique, puisque nous savons que plusieurs des grands saints de l'Église de ce temps ont eux aussi eu maille à partir pendant quelques semaines, au moins, quelquefois un peu plus, Fray Luis de León, de Siamonthayer, 5 ans après. Bon, avec le Saint-Office. Donc, en Espagne, il est sous surveillance. Mais il va aussi être sous surveillance en France et puis en Italie. À Paris, où donc lassé des universités espagnoles et de la surveillance dont il était l'objet, il arrive en février 1528. Il s'établit donc sur la colline de Montmartre et il entre au collège de Montaigu, qui était un collège connu, mais paraît-il fort mal installé, très, très mal pourvu de toutes choses. Sans ressources, il loge à l'asile, il mendie. Il n'en est pas moins convoqué par l'inquisiteur épiscopal, un dominicain du nom de Mathieu, qui lui dit de prendre garde à ses faits et gestes. Mais à partir de là, à partir de ce moment, malgré tout, il semble que Ignace soit moins surveillé qu'il ne l'était jusque-là. C'est en octobre 1529, il rentre au collège Sainte-Barbe. En 1532, il devient bachelier Essard. Et en 1533, l'année suivante, maître Essard. Il n'est toujours pas prêtre à ce moment-là. Et c'est au cours de ses études, on y a fait allusion tout à l'heure, qu'il connaît deux hommes qui deviendront les premiers compagnons de son aventure spirituelle, c'est-à-dire le Savoyard Pierre Favre et le Navarrais François Xavier, qui est tout de même, comme on l'a fait remarquer, de 15 ans, son cadet. Ce n'est qu'en 1538, à l'âge de 47 ans, qu'Ignace de Loyola, qu'Inigo de Loyola, dira sa première messe à Rome lors de la nuit de Noël dans une chapelle proche de Sainte-Marie Majeure. De sorte que sa vie sacerdotale n'a duré finalement que 19 ans. Il est vrai qu'il avait fondé 4 ans auparavant, donc avant d'être prêtre, la communauté de Montmartre, cela est bien connu, première ébauche de la compagnie de Jésus. Eh bien, il m'a semblé préférable de présenter d'abord, de présenter d'emblée, en quelque sorte, Ignacio de Loyola comme le personnage hors série qu'il est incontestablement. Compte tenu de ce qu'il va réaliser pendant les 19 années qui lui restent à vivre et du rôle essentiel que devait jouer la compagnie qu'il fonda, il vaut la peine, je crois, de rappeler cette période tout à fait exemplaire et fondamentale de sa vie. Et on peut maintenant se demander d'où il venait lorsqu'en 1522 commença l'aventure de ce prodigieux pèlerin de la foi. Car rien ne semblait avoir préparé Ignace à son improbable parcours des années 1522-33. Il possède, on le sait, de la noblesse guipuscoane. Il est né dans une casa torre, n'est-ce pas, une maison-tour, une sorte de grande ferme fortifiée, à 2 kilomètres de la petite ville d'Aspeitia. Sa mère, trépilleuse mais assez vite disparue, lui donna une éducation chrétienne traditionnelle, à vrai dire assez superficielle, quoique ses parents aient pensé à l'orienter d'abord vers une carrière ecclésiastique qui serait susceptible de lui procurer un bénéfice. Puis, cette orientation n'ayant pas semblé être la bonne, et selon une formule très éprouvée dans la noblesse castillane de l'époque, et d'ailleurs également dans la noblesse espagnole, mais aussi dans la noblesse française, il entra à 15 ans, comme page au service d'un noble plus huppé, Juan Velázquez de Cuellar, qui était trésorier général des rois de Castille. Donc c'est à ce moment-là, en quelque sorte, que les Loyola entrent, si vous voulez, au service de la monarchie castillane. Et il va résider dans le centre où vivait Pérez de Cuellar, c'est-à-dire en Vieille Castille, à Arevalo, près de la villa de Ségovie, etc. 10 ans plus tard, en 1516, il entre au service d'un personnage encore beaucoup plus important, beaucoup plus puissant, qui n'est autre que Antonio Manrique de Lara, duc de Nájera, vice-roi de Navarre, et c'est à Nájera, autre petite ville, donc, qui a été rappelée tout à l'heure par Béatrice Leroy, qui s'établit à ce moment-là. On est très mal informé de ces années d'enfance et d'adolescence, d'autant que dans l'autobiographie qu'il dictera sur le tard, il en parle fort peu. Il semble que jusqu'à 1520, il a mené l'existence oisive d'un hidalgo, très éloigné, semble-t-il, de toute préoccupation spirituelle. Et on ne sait pas grand-chose, sinon que peut-être en 1515, lors d'un séjour à Aspeitia, à l'occasion du carnaval, il avait été obligé de fuir en grande vitesse jusqu'à Pampelune pour ne pas être arrêté non pas encore par l'Inquisition, mais par la police, et d'être incarcéré. Il semble qu'il y avait eu une rixe suivie de blessures graves, ou peut-être même, a-t-on dit, un rapt de séduction. Lorsqu'il dicte son autobiographie, il fait écrire « Jusqu'à l'âge de 26 ans, il fut un homme adonné aux vanités du monde et principalement à l'exercice des armes avec un grand et vain désir d'y gagner de l'honneur. » Ce qui est étonnant, c'est qu'il dit jusqu'à 26 ans et pas jusqu'à 29. On ne sait pas trop pourquoi. Le tournant décisif d'Ignace, on y a fait allusion déjà au moins 2 fois ce matin. Le tournant décisif, c'est bien entendu 1521, c'est-à-dire le siège de Pampelune, dans lequel il se trouve impliqué au sein de l'armée donc castillane contre les franco-navarrais, si on peut ainsi s'exprimer. Et il a à ce moment-là... Il est monté en grade parce qu'au service du duc de Nájera, avec lequel on pense qu'il a participé à la pacification, entre guillemets, des comunidades de Castille, n'est-ce pas ? Donc il est monté en grade à cette occasion-là. Et au cours de ce siège de Pampelune, il subit, comme tout le monde le sait, cette fois c'est sûr, une blessure grave. Et il fait à cette occasion-là la découverte de la douleur physique, puisque à 2 reprises, le chirurgien doit lui scier la jambe au-dessus du genou, évidemment sans aucune anesthésie, puisque à cette époque, l'anesthésie était inconnue. Et vous le savez, il lui restera de cette blessure, bien que une nouvelle opération ait été tentée, Il lui restera de cette blessure une légère claudication. La gravité de la blessure a condamné Ignace à une longue immobilisation. Et pour tuer le temps, on peut dire encore le jeune homme, enfin il a 31 ans, pour tuer le temps, cet homme dont la culture était élémentaire demande des livres de chevalerie. C'est une demande parfaitement conforme au goût du temps. Et on sait bien, par exemple, que Thérèse d'Avila a lu, elle aussi, des romans de chevalerie. D'ailleurs, dans cette autobiographie dont j'ai déjà parlé, Ignace précise, fait préciser par celui qui tient la plume, qu'il était « muy dado a leer libros mundanos y falsos que suelen llamar de caballería ». C'est-à-dire qu'il était très enclin à lire des livres mondains et faux, ou en tout cas factices, que l'on appelle les livres de chevalerie. Mais ni dans le château familial où il avait été amené pour le temps de sa convalescence, ni dans les environs, on ne trouva ces livres de chevalerie qu'il avait dû découvrir dans les petites cours seigneuriales d'Arevalo et de Najera, où, comme je l'ai dit, il avait donc séjourné. Ce qui soit dit en passant, témoigne de la pauvreté des bibliothèques dans le Pays basque profond de ce temps. Mais en revanche, on lui trouva deux beaux in quarto bien reliés, le Flos Sanctorum, la légende dorée, de Jacques de Voragine, dans une édition castillane, et la Vita Christi du chartreux allemand Ludolf de Saxe, dans la traduction espagnole qu'en avait donnée Ambrosio de Montesinos, également dans une édition castillane, Marcel Bataillon, grand hispanisant devant l'Éternel de Naguère, a pu dire qu'elle avait été un des best-sellers de l'époque. Et je l'ai moi-même vérifié personnellement, car j'ai constaté que ce livre apparaissait très fréquemment dans les inventaires de bibliothèques du XVIe siècle que j'ai eu l'occasion de consulter. Alors on peut quand même s'étonner qu'Ignace n'ait disposé ou n'ait pu disposer que de ces deux livres, car son frère Pedro López de Oñas, qui était curé de la paroisse d'Azpeitia, et avec lesquels, pendant sa convalescence, il a eu l'occasion de converser nos propos de sujets religieux, comme il le dit lui-même, on le sait, devait être à même de lui fournir d'autres livres. Mais peut-être qu'en 1533, lorsqu'il dicte le récit de sa vie, et donc qu'il parle de ces deux livres, 30 ans après l'époque de sa convalescence, et peut-être se limite-t-il à l'évocation de ces deux livres, parce que ce sont ces deux livres qui l'ont touché de manière décisive. Car en effet, ce sont ces deux livres qui ont provoqué la conversion définitive d'Ignace de Loyola. D'une part, le Flos Sanctorum, la légende dorée des saints, lui a inspiré en quelque sorte le désir d'imiter les exploits des saints. Autrement dit, de changer, si vous voulez, de cible, n'est-ce pas ? Et la Vita Christi a eu certainement une influence encore beaucoup plus importante sur la suite de sa vie. C'est la Vita Christi qui lui a inspiré la volonté de faire le pèlerinage de Jérusalem, qui dès le prologue du livre était recommandé. De plus, et c'est normal puisque cette Vita Christi était faite par un chartreux, n'est-ce pas, Ludolf de Saxe, cet ouvrage était très marqué par la spiritualité propre au chartreux. Et elle lui a probablement, pour ne pas dire sûrement, inspiré l'expérience érémitique très intense, très forte, qu'il va vivre en 1522, quelques mois après sa guérison, dans la grotte de Manresa, que j'ai déjà évoquée plusieurs fois, puisqu'elle est vraiment au cœur de la carrière et du parcours d'Ignace, en Catalogne, séjour au cours duquel il va dépouiller au propre et au figuré le vieil homme, c'est-à-dire le chevalier qu'il a été jusque-là. On sait qu'il accroche ses armes, son épée, son poignard à la grille de la niche dans laquelle se trouve la statue de la Sainte Vierge de Montserrat. Il donne ses vêtements à un pauvre de rencontre et s'habille d'une toile de sac qui noue à la ceinture par une grosse corde, en gardant cependant au pied droit, c'est-à-dire le pied de la jambe blessée, une espadrille. Il commence cette nouvelle partie de sa vie par une confession générale. Confession générale auprès d'un bénédictin de Montserrat, le père Chanon, qui était d'origine française. Et par une veillée de prière, toute une nuit, la nuit du 24 au 25 mars 1522. Et il s'installe dans la grotte pour y vivre son expérience d'anachorète, sans doute inspirée par la règle des Chartreux, puisque peu de temps avant de quitter Pampelune, il avait demandé à un domestique de sa famille, qui se rendait à Burgos, de profiter de ce voyage pour aller à la chartreuse de Miraflores, qui est tout près de Burgos, et de façon à connaître précisément cette règle. D'autre part, par conséquent, il est vraisemblable qu'il y avait déjà une intention de sa part. Une intention qui faisait suite, bien sûr, à la lecture de la Vita Christi. Alors, à ce moment-là, certes, avant Manres, Ignace n'est pas encore parfaitement conscient du rôle qu'il va jouer et même de l'orientation qu'il va prendre. On rappelle quelquefois l'incident assez curieux de son voyage en mule, donc depuis Arantzazu jusqu'à Manres, où il rencontre un Morisque. Béatrice Leroy a évoqué tout à l'heure le cas des Morisques. Il rencontre un Morisque et il noue avec ce nouveau chrétien une controverse qui se passe assez mal. Le ton monte. L'orthodoxie du Morisque paraît suspecte à Ignace, au point que le Morisque inquiet préfère prendre la fuite. Et pendant un certain temps, Ignace se demande s'il a eu raison de le laisser prendre la fuite, et il se demande même s'il va la poursuivre pour le mettre à mort, puis finalement, il ne le fait pas. Donc, vous voyez, il n'a pas encore tout à fait choisi les convictions qui vont devenir les siennes. Pendant son séjour dans la grotte, Ignace s'est astreint à de très dures pénitences, tout en suivant les exercices spirituels qui étaient recommandés aux moines médiévaux, la lectio, la méditation, l'oratio, la contemplation. De sorte qu'à l'évidence, le séjour de Manres a eu un rôle important dans la genèse et dans la conception des futurs exercices spirituels. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est également certain qu'Ignace a gardé longtemps l'empreinte de la spiritualité des Chartreux et de leur goût pour l'expérience érémitique. À Paris, de 1528 à 1533, il a eu l'occasion de fréquenter des Chartreux. Il a envisagé de se retirer à la chartreuse de Séville au retour de Terre Sainte. Il n'a pas encore à ce moment-là pris les décisions que nous savons. En 1535, cette fois c'est après la création de la communauté de Montmartre, quand il se rend à Valence, il fait le détour de Ségorbe, qui est près de Valence, pour y voir son ami Juan de Castro, qui était entré dans la chartreuse de Valle de Cristo, et il passe une semaine dans cette chartreuse. En 1537, nous sommes déjà plus loin, à Vicence, avec Pierre Favre et avec Diego Leynes ou Jacques Leynes, les trois hommes s'installent dans une maison abandonnée, un bâtiment sans porte ni fenêtre, pour un épisode érémitique qui est précisément inspiré de ce que lui a révélé son séjour à Valle de Cristo. Et plus tard, lorsqu'Ignace fonde la Société de Jésus, plutôt lorsqu'il rédige les constitutions, la règle prévoit que le seul ordre pour lequel les jésuites peuvent quitter la Société de Jésus est celui des Chartreux. Cette collaboration d'ailleurs entre Chartreux et jésuites sera démontrée à plusieurs reprises. Par exemple, en Allemagne, la Chartreuse de Cologne favorisera l'implantation des jésuites. Durant le séjour de Manresa, Ignace a vu régulièrement au monastère de Montserrat un directeur spirituel. Et il a aussi commencé à rédiger à cette époque son journal spirituel, dont malheureusement, vous le savez, il ne reste qu'un fragment, et un fragment très tardif, puisque les 51 pages qui demeurent de ce journal ont été écrites entre le 2 février 1544 et le 13 mars 1545, donc bien après, n'est-ce pas, les débuts. Les spécialistes sont également convaincus que c'est lors de ses visites à Montserrat, pendant le séjour de Manresa, qu'il a découvert ce que l'on appelle la devotio moderna, dont les principes et les enseignements avaient en quelque sorte transhumé depuis la Flandre, qui était le berceau de la devotio moderna, jusqu'au grand monastère catalan. Et elles avaient donné lieu à la composition de plusieurs traités, et notamment à celui de Garcia de Cisneros, Compendio de Ejercicios Espirituales, qui était un abrégé des traités plus conséquents, plus importants, dus à l'abbé Pierre de Burgos, l'Exercitatio et le Directorio. C'est au cours des années suivantes qu'Ignace a composé ses exercices spirituels en les rodant, si on peut dire, puisqu'il les donnait à diverses personnes pour que ces personnes les expérimentent. D'abord à Paris, à ses premiers compagnons. Et on dit même que Pierre Favre aurait exagéré la rigueur de ses exercices. Puis, après le départ pour l'Italie, aux 10 premiers membres de la Société de Jésus, mais aussi à des personnes de la société civile et à des ecclésiastiques à qui il présentait son manuel de tactique spirituelle comme un manuel à chronologie variable, puisque si en principe les exercices devaient se dérouler sur 4 semaines, il était possible d'abréger certaines semaines ou d'allonger les autres, même si au total les exercices devaient durer 30 jours environ. Bon, environ, il ne s'agit pas d'une règle absolument intangible. 4 semaines, mais extensible ou réductible selon les cas. Enfin, le séjour capital de Manresa est aussi l'occasion d'expériences mystiques, de visions, auxquelles Ignace de Loyola a fait allusion dans le journal spirituel. Visions qui sont accompagnées de crises de larmes, voire de sanglots, qui lui laissaient les yeux brûlé, au point qu'il craignait de perdre la vue. Dans le court extrait du journal spirituel que j'avais publié dans un livre qui s'appelle « Un siècle d'or espagnol », en choisissant la date du 11 février 1544, rien que dans cette seule journée du 11 février 1544, j'avais compté 9 références aux larmes ou même aux sanglots. Alors, un exemple, je lis. Avec larmes et sanglots à genoux, je fis l'oblation au Père de ne rien posséder. Tant de larmes sur le visage et de sanglots en faisant l'oblation et après, que je ne pouvais me lever à cause des sanglots et des larmes de dévotion et de la grâce que je recevais. Je me levais enfin, et une fois levé, dévotion et sanglots continuaient encore. Or là, il ne s'agit plus de Manresa. Nous sommes en 1544. Ce qui est étonnant, je dirais même stupéfiant, c'est que si l'on met en regard de ces textes, de ces extraits du journal, des lettres d'Ignace, qui datent de la même période, exactement de la même période, on a l'impression qu'il ne s'agit pas de la même personne. Car ces lettres révèlent un homme qui, au même moment, organise méthodiquement la reconquête catholique de l'Allemagne et de l'Europe centrale, et qui donne à ces hommes, où qu'ils se trouvent, en Italie, en Espagne, en Europe centrale, en Extrême-Orient, des instructions à la fois très claires et très fermes.
Nous marquons une pause musicale avant de retrouver la suite et la fin de l'intervention de Bartholomé Benassar.
Thank you.
Vous avez certainement reconnu la célèbre marche en l'honneur de Saint Ignace de Loyola. Et voici maintenant la fin de l'intervention de Bartolomé Benassar, Ignace de Loyola et la sainteté au siècle d'or en Espagne.
Alors, comment comprendre, après avoir évoqué la conversion et les expériences érémitiques et mystiques, comment comprendre où va Ignace de Loyola lorsque, à partir de 1534, avec six compagnons, il crée la communauté de Montmartre, où se sont rejoints des personnages aussi étonnants que Pierre Favre, François Xavier, Diego Lainez, Nicolas Bobadilla, Simon Rodriguez et Alfonso Salmerón. Quatre Espagnols, un Portugais, un Savoyard. Ceux qui vont prononcer le vœu de ne jamais se séparer le 15 août 1534. Comment comprendre le passage du mystique à l'homme d'action ? Encore que cette double personnalité, quasi schizophrène, ne soit pas rare chez les mystiques. Cas bien connu de Thérèse d'Avila, dans une moindre mesure de Jean de la Croix. Mais le cas d'Ignace reste quand même tout à fait impressionnant. Voici un homme qui désormais, depuis Rome, tisse sa toile à travers le monde, inlassablement. Voici un nomade devenu sédentaire, qui expédie quelques 6800 lettres dictées à Juan Polanco, son secrétaire. Quelquefois, il en rédige de sa main, mais la plus souvent, elles sont rédigées par Juan Polanco. Alors, l'interrogation est d'autant plus forte qu'Ignace et les siens ont dû improviser une reconversion de leur projet initial, puisque l'intention initiale était de passer en Terre Sainte et d'agir là-bas. C'est avec cet objectif qu'ils avaient quitté Paris pour Venise. D'ailleurs, Venise, par hasard, puisque, bien sûr, c'était en quelque sorte un tremplin pour le passage en Orient. La guerre contre les Turcs, vous le savez, a ruiné le projet initial. Comment expliquer que de Venise, où les compagnons ont déployé une activité intense dans le service des hôpitaux à ce moment-là, Ignace de Loyola et préféré envoyer à Paul III, pape Paul III qui vient d'être élu, ses collaborateurs, plutôt que d'assumer lui-même une mission qui pouvait paraître très difficile auprès du pape. À moins qu'Ignace ait pensé alors que le succès était pratiquement assuré, parce que le nouveau pape, qui vivait un temps de révolte au sein de l'Église, affronté à la réforme, avec une Allemagne qu'on pouvait considérer à demi perdue pour le catholicisme depuis la confession d'Augsbourg de 1530, avec une Angleterre perdue depuis la promulgation de l'acte de suprématie par Henri VIII, qui date justement de 1534, donc du même moment, du moment de l'élection de Paul III. Comment imaginer que le pape ne voit pas dans cette milice qui venait s'offrir à lui, qu'il n'avait pas suscité, qu'il n'avait pas provoqué, qui vient s'offrir à lui, comment le pape n'aurait-il pas vu dans cette milice un cadeau du ciel, un instrument inespéré du pouvoir pontifical, même si en 1539, le pape était, en 1534 ou 39, le pape ne pouvait en aucune façon prévoir la prodigieuse expansion de la Société de Jésus. Toujours est-il que Paul III fit bon accueil aux neuf compagnons et donna l'autorisation à ceux qui n'étaient pas prêtres de se faire ordonner par l'évêque de leur choix dans des délais rapides. Cet accueil décida Ignace et les siens à s'établir à Rome, où ils prêchèrent, comme ils l'avaient fait à Venise, non sans susciter, il faut bien le dire, l'hostilité d'une partie du clergé. J'avais fait tout à l'heure allusion au fait que l'installation des jésuites ne s'était quand même pas faite sans difficulté. Il fallut également de longues discussions pour que le pape et les cardinaux acceptent le projet d'Ignace, Ce fut fait par la bulle du 27 septembre 1540, hein, Regimini Militantis Ecclesiae, et la méfiance de la curie s'exprima notamment par l'interdiction faite au nouvel ordre de recruter plus de 60 membres. Interdiction, d'ailleurs, il est vrai, qui fut rapportée dès 1544 et quelques années plus tard, au moment de la mort d'Ignace, les jésuites, on va le voir, étaient déjà plus d'un millier. Bon. En tout cas, donc en 1544, l'interdiction est rapportée et en 1541, malgré ses réticences, Ignace de Loyola avait été élu préposé général. Préposé général, terme très modeste, pensez aujourd'hui à une activité postale, mais bon. À la mort d'Ignace, en 1556, par conséquent, les jésuites comptaient déjà plus de 1000 membres, répartis en 76 établissements, sans compter les francs-tireurs, tel précisément François Xavier, expédié aux Indes, comme Monseigneur l'a dit tout à l'heure, à la fois comme ambassadeur et comme nonce, pour répondre aussi à une demande du roi de Portugal, Jean III. Et on sait que François Xavier, donc, tenta d'évangéliser le Japon, puis la Chine, avant de mourir, près de Canton, en décembre 1552, d'une pneumonie. Mais en très peu de temps, c'est pas très peu de temps, puisque nous voyons que c'est à une quinzaine d'années, si de 1541 jusqu'à la mort en 1556, en très peu de temps, Ignace a donc rédigé les constitutions d'une société religieuse, qui a tenu pendant 4 siècles et demi, autrement dit jusqu'à maintenant, une place de premier plan dans le monde, et pas seulement dans le monde, dans la chrétienté latine, mais qui a également inventé non seulement des manières d'enseigner, plébiscitées à la fois par les élites sociales et par les princes, fussent-ils protestants, puisqu'au moment de la suppression de l'ordre, on verra par exemple Catherine II en Russie et Frédéric II refuser en quelque sorte cette dissolution. Mais également des manières de vivre, de nouvelles manières de vivre, comme dans le cas de ce qu'on a appelé les réductions du Paraguay. C'est d'ailleurs une formulation restrictive, parce que les missions en question ne sont pas seulement dans le Paraguay actuel, mais dans une partie de l'Argentine. Il y a une province d'Argentine qui s'appelle Misiones, n'est-ce pas, au Brésil et également en Bolivie. Quelques-unes des missions jésuites les plus remarquables, les plus difficiles d'accès, sont en Bolivie. Réductions ou missions qui ont suscité, comme vous le savez parfaitement, et jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au moment des Lumières, à la fois l'admiration et une hostilité acharnée. Et d'autre part, nous l'avons déjà dit, Ignace a produit les exercices. Hein, les exercices sont quand même quelque chose d'assez étonnant, voilà, quand on voit comment, notamment, la progression qui est organisée à travers les 4 semaines de cet itinéraire. Et l'intervention de procédés, si vous voulez, didactiques assez étonnants, comme par exemple le procédé de la composition de lieux, pour stimuler l'imagination afin de pouvoir entrer vraiment dans l'exercice. Donc, un manuel très étonnant par sa didactique, certes dépourvu de magie littéraire, mais d'une efficacité tout à fait remarquable. Et puis, le journal spirituel dont je parlais, et bien qu'on ait que 51 pages, qui est l'expression donc d'une expérience mystique. Enfin, une correspondance monumentale, où se révèlent des dons d'organisateurs hors pair et un sens aigu de la psychologie collective. C'est d'ailleurs ce sens aigu de la psychologie collective qu'on trouve aussi dans les exercices spirituels. Et je termine. Le mystère d'Ignace de Loyola, c'est l'alliance dans un même personnage d'une exploration intérieure qui est à la limite du vertige et de capacités extraordinaires d'homme d'action, de gestionnaire, on pourrait même risquer le mot actuel de manager, à y bien réfléchir. Et quoique son rayon d'action ait été beaucoup plus court, Thérèse Davila était une personnalité presque aussi complexe, douée de surcroît d'un authentique talent littéraire. Et Ignace et Thérèse sont certainement d'étonnantes illustrations, étonnant est même un mot faible, de la manière dont l'expérience mystique peut s'accorder avec l'efficacité de l'action. Je vous remercie.
Ignace de Loyola, 1491-1556 et la sainteté au siècle d'or en Espagne. Vous venez de suivre une conférence de Bartolomé Benassar, professeur émérite des universités, une conférence enregistrée le 19 avril 2006 lors d'un colloque consacré au 5e centenaire de la naissance de Saint-François-Xavier 1506-1552.